Un autre point important. Le désert est un lieu de tentation. Et on va regarder ensemble rapidement les trois tentations auxquelles Jésus a été soumis et voir ce que ça signifie pour nous, avec des exemples pratiques, concrets. Le désert est un lieu de tentation. Le manque, l'absence d'essentiel, l'absence de légitime, ce qui nous éprouve, va nécessairement amener une tentation. C'est un principe. La Bible dit clairement que Dieu, oui c'est vrai, il nous conduit au désert, oui, Dieu peut se servir aussi des déserts dans lesquels on s'est mis tout seul, mais la Bible est très claire sur le fait que Dieu ne tente jamais personne. Que personne, s'il est tenté, dit Jacques, ne dise « Ah, c'est Dieu qui me tente », parce que Dieu ne tente jamais personne. Dieu permet l'épreuve, mais on sait que le Dieu qui éprouve, le Dieu qui teste, le Dieu qui forme, le Dieu qui éduque la foi, on sait que le Dieu qui éprouve a vu aussi, il sait qu'il va y avoir une tentation qui va être liée à l'épreuve. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de nos vies. Chaque fois que vous passez par un désert, une épreuve, une tempête, mettez le mot que vous voulez, chaque fois que vous passez par un désert, à cette épreuve, il y a une tentation qui est liée. Dieu éprouve, éduque la foi, teste, veut montrer la fiabilité, veut révéler des choses, veut fortifier, veut bénir, veut guérir, veut conduire sur un chemin de bénédiction. Oui, mais l'ennemi, lui, il est aussi là. Je vous l'ai dit dimanche, hein, dans le désert, il n'y a pas que Dieu et vous. Hein. Déjà, réaliser la présence de Dieu dans le désert, ce n'est pas évident, parce qu'il semble drôlement loin. Mais Dieu est là, mais le diable aussi, il est là. Hein. Dans vos déserts, quelle que soit leur forme, ne vous faites pas d'illusions. Hein. Dans le désert, t'es trois. Hein. Dans le désert, vous êtes trois. Hein. Il y a le diable, il est là. Et lui, il va chercher à tirer parti de cette épreuve, de cette zone de test. Il va venir s'en mêler, parce que pour lui, c'est un terrain favorable. Dieu éprouve, et le diable, lui, il profite pour tenter, parce que c'est un terrain favorable. Mais Dieu l'a vu, et Dieu va laisser le diable amener ses tentations. Parce qu'il faut absolument que je manifeste, on l'a lu dans Deutéronome 3, il faut absolument que je manifeste mon attachement à sa parole, je dois manifester mon intégrité, je dois manifester mon obéissance, je dois manifester ma soumission, je dois manifester ma confiance, je dois savoir à quoi j'en suis, je dois avoir l'occasion de prendre position, je dois avoir l'occasion de faire le tri dans mes pensées et dans beaucoup de choses, et dans ce combat contre l'ennemi dans mon désert, je vais grandir. Amen. Comment vous allez grandir sans combat? Comment vous allez grandir sans entraînement? Comment le sportif deviendra-t-il un athlète s'il est toujours dans une chaise longue, avec une petite brise, un petit parasol et un petit cocktail? Comment est-ce qu'il va devenir un athlète? C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc Dieu le sait. Tu vas aller au désert, et tu vas aller au désert pour être tenté. Là encore, frères et sœurs, quand je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas dans les réunions, dans nos moments si sympathiques et fraternels, que nous pouvions nous connaître, ce n'est pas quand tout va bien qu'on peut se connaître, c'est quand on est dans le désert. De la même façon, ce n'est pas quand tout va bien qu'on peut connaître notre attachement à la parole de Dieu. Votre degré d'attachement à la parole de Dieu, ce n'est pas maintenant que vous le mesurez. C'est demain quand ça n'ira pas. Demain quand vous ne serez plus ensemble. Demain quand vous serez chez vous. Demain quand vous serez confronté à votre manque, à votre vide, à votre absence, à votre épreuve. C'est lorsque je suis dans le désert, c'est là que je peux vraiment connaître et manifester mon attachement à la parole. Ce n'est pas dedans, c'est dehors que ça se passe. On lit ensemble Matthieu 4, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 4, et évidemment le verset premier. Dans les PowerPoints précédents, je vous avais mis les parallèles. Vous avez aussi l'évangile de Marc au chapitre 1er. Vous avez l'évangile de Luc au chapitre 4. Les tentations de Jésus dans le désert sont dans les trois évangiles synoptiques. Nous, on va prendre pour ce soir Matthieu chapitre 4. Verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Parce que l'Esprit savait très bien que l'affrontement devait avoir lieu. Il savait très bien qu'il y avait une épreuve et qu'à l'épreuve, il y aurait une tentation. Tu vas aller au désert pour être tenté par le diable. Oui, je vais te mettre sur le ring avec ton ennemi. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il sort le texte que nous venons de lire dans Deutéronome 8. D'ailleurs, les trois paroles que Jésus va utiliser sont trois paroles du Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Tu vois, moi aussi la Bible, je la connais. Psaume 91, verset 11. Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses » si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Preuve que la provision de Dieu, la provision divine, était déjà prête. Le problème n'était pas le désert. Le problème n'était pas le fait d'être servi ou pas prêt. C'était prêt. Le problème, c'était la prise de position. Comment est-ce que je vais me positionner, spirituellement parlant, dans mon désert, dans mon épreuve ? La première chose, le diable dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ici, le diable va mettre Jésus au défi de faire ses preuves. Il va le provoquer. Le diable sait très bien que Jésus est Dieu. Ça fait bien avant que la terre soit, il avait essayé de lui piquer son trône. Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Le diable sait très bien que Jésus est Dieu de toute éternité. Donc ce qu'il fait, il va le provoquer, il va le mettre au défi de faire ses preuves et il va remettre en question sa nature. Et c'est pour ça qu'on a parlé de ça hier soir, c'est pour ça que nous devons veiller sur nos cœurs, nos dispositions de cœur, et qu'en nous-mêmes, on ne remette jamais, au grand jamais, aux questions la nature de Dieu. On peut avoir des moments de doute, on peut avoir des moments de défaillance, il y a des moments où on est ébranlé, il y a des moments où on ne va pas bien, il y a des moments où on... Ok, d'accord, mais on ne remet jamais en question la nature de Dieu. Le doute, il faut qu'il soit traité, parce que le doute, il s'installe, il se répand, il y a un glissement, le doute devient de l'incrédulité, et puis un jour, on remet en question la nature de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas remettre en question la nature de Dieu, c'est déjà tenter Dieu, selon ce que je vous ai expliqué hier soir. Il le tente, il le provoque, mais derrière le fait de ce simple, cette question de « j'ai faim », ça c'est le besoin terrestre. L'enjeu, il est beaucoup plus important que le fait d'avoir une réponse à un besoin terrestre. L'enjeu, il est spirituel, toujours. L'enjeu, ce n'est pas ton besoin, mon frère, ma sœur. Je sais qu'il y a des besoins qui sont criants, qui sont urgents, qui sont effrayants, qui sont importants. Le véritable problème, ce n'est pas ton besoin. Le véritable problème, c'est un besoin spirituel. La vraie tentation, elle est spirituelle. Et qu'est-ce que le diable fait ici ? Il voudrait que Jésus fasse ses propres miracles. Changer les pierres en pain, ça veut dire, mais puisque tu es Dieu, qu'est-ce que tu t'embêtes à être soumis à l'Esprit ? Qu'est-ce que tu t'embêtes à attendre ? Qu'est-ce que tu t'embêtes à patienter ? Tu es Dieu, oui ou non ? Sous-entendu, toi et moi, on sait très bien que tu es Dieu. Donc, vas-y, fais tes propres miracles. Et en réalité, le diable, ici, est en train de l'inciter à sortir d'une voie bénie. C'est une voie de soumission. Jésus a choisi la voie de la soumission, de la dépendance de la foi. Il a choisi la voie de l'obéissance. Et le diable voudrait que Jésus ne soit plus dépendant, mais qu'ils deviennent indépendants par orgueil. Et la plus grosse tentation pour nous, frères et sœurs, dans nos déserts, quelle que soit la forme que ça prend, c'est de quitter le terrain de la foi, le terrain de la dépendance de la foi. Je dépends de toi, Seigneur. Je suis soumis, Seigneur. Je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à attendre. Je suis prêt à patienter. Et là, Jésus est en train de résister au diable qui lui dit « Mais vas-y, mais prends les choses en main. Mais puisque Dieu ne fait rien, ça fait 40 jours que tu as faim. Ça fait 40 jours que Dieu n'a pas répondu à ton problème. Ça fait peut-être pour toi des mois ou des années qu'il y a une situation qui n'est pas réglée. » Le diable dit « Mais vas-y, mais prends les choses en main. Fais ton propre miracle. » Et là, souvenez-vous de cette parole de Jésus, ces paroles de Jésus qui dit à la foule, ces paroles que je dis quand je vous enseigne, ces paroles que je dis, ce n'est pas de moi que je les dis, ce sont les paroles que mon Père m'a demandé de vous dire. Ces miracles que je fais, ce ne sont pas mes miracles, ce sont les miracles que j'ai vu faire au Père dans le ciel et qu'il m'a demandé de faire. Et Jésus avait toujours cette voix, V-O-I-E, de soumission, de dépendance. Et c'est ce qui fait, frères et sœurs, la soumission, la dépendance de la foi. C'est la nature de la foi. La foi, elle est dépendance. Le diable, il nous pousse à l'indépendance. Mais la foi, elle est dépendance. Elle est patience. Elle est soumission. Et faire nos propres miracles, ça a des lourdes conséquences. Alors, on prend un petit exemple, et puis on parle un petit peu d'Abraham. Pas Abraham, mais Abraham. Abraham, en Genèse 16, je vous ai expliqué dimanche que nos déserts pouvaient prendre différentes formes concrètes dans nos circonstances. Et je vous avais cité, vite fait, notamment Abraham, alors que le Seigneur, quand il a 75 ans, lui promet une postérité. La réalité, c'est que Abraham est aux antipodes de ce que Dieu a promis, puisque Abraham n'a même pas l'ombre du commencement d'un enfant, son corps est vieux, celui de sa femme aussi, et quand on arrive à Genèse 16, ça fait déjà 10 ans, Abraham a 85 ans, ça fait déjà 10 ans qu'il est dans un désert familial, il n'a même pas un fils, c'est ça son désert. Et la promesse de Dieu, sans arrêt, lui dit et réitérée régulièrement, « Je te bénirai, je te donnerai une bénédiction, je serai ton bouclier, ta récompense sera grande. » Oui, Seigneur, moi, ça fait quand même 10 ans maintenant. Donc, ça commence à devenir un peu dur. Et Dieu avait dit à Abraham, quand Abraham avait dit, « Bon, Seigneur, vu que ça fait 10 ans et que j'ai toujours rien, on va dire que c'est Eliezer, mon serviteur, qui sera ma descendance. Ce sera lui ma postérité. » On dit que c'est bon, Seigneur. Quelque part, il vient un peu de moi, c'est mon serviteur, il m'appartient. Fais jaillir la postérité de lui. Et Dieu dit à Abraham, non, ce sera quelqu'un, un fils qui sortira de tes entrailles. Miracle non pas humain, miracle divin. Et là, le diable est malin. Il vient, c'est la deuxième phase, il essaye de toujours jouer sur la parole, et il vient par l'intermédiaire de Sarai, et Sarai, elle va donner à Abraham une tentation beaucoup plus subtile. Mais puisque Dieu nous a pas donné de fils, est-ce que tu as déjà entendu, Abraham, chéri, au fait, est-ce que tu as déjà entendu parler de la GPA? La gestation pour autrui. Parce que la première mère porteuse, vous savez, aujourd'hui on n'a rien inventé. Hein. La gestation pour autrui, l'origine, elle est là, hein. La première mère porteuse, c'est Agar. Et Sarai dit, mais au fait, si tu vas coucher avec ma servante, on peut dire que la descendance, la postérité, elle sort bien de tes entrailles, puisque c'est toi, chérie, qui auras mis la graine. Donc, puisque c'est toi qui mets la semence, ça sort de tes entrailles. Donc, c'est bon. Et là, Abraham et Sarai, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en réalité en train de changer les pierres en pain. Ils sont en train de prendre les choses en main et ils sont en train de faire leur propre miracle. Eux, ils se disent, comme ça, tout est réglé, on fait l'économie de la patience de la foi, on n'a pas besoin d'attendre plus longtemps, on n'a plus besoin de s'inquiéter, on trouve une solution, Dieu n'a rien fait, et bien moi, dans ma souffrance, dans ma légitimité, je vais trouver une solution. Et Genèse 16 nous dit que Abraham a écouté la voix de sa femme. Et vous savez ce qui s'est passé derrière. Et ce stratagème, parce qu'il y a une tentation de l'ennemi derrière, ce pseudo-miracle, quand vous lisez tout le récit derrière, ce pseudo-miracle humain, c'est un miracle humain bien sûr, a fait beaucoup souffrir Abraham, Saraï, Ismaël, Isaac, et tôt ou tard, frères et sœurs, il faut comprendre que si dans le désert nous craquons et que nous changeons les pierres en pain, il faut comprendre que nous allons nous faire beaucoup de mal, nous allons tout compliquer, ça va détruire, ça va pourrir les relations. Ah, relisez l'histoire et regardez comment Agar, Saraï, combien il y a eu de souffrances, combien de tensions, combien de difficultés. Frères et sœurs, ça m'enseigne, ça me dit que quand on ne veut pas payer le prix de la foi, quand on ne veut pas attendre le vrai miracle, la vraie bénédiction avec un B majuscule, parce que la foi est patiente, parce que la foi est soumise, parce que la foi est persévérante, parce que la foi est obéissante, et que quand on ne veut pas attendre le temps de Dieu, de toute façon, le prix que tu n'as pas payé, tu le payeras autrement. Mais de toute façon, le prix, tu le payeras. Et tu le payeras beaucoup plus cher. Alors là, je ne peux pas, il y aurait des tas d'applications pratiques dans les circonstances des uns et des autres. Chacun doit faire sa propre application, sinon ce serait trop long, à son domaine, à son désert. Mais de comprendre que Abraham et Saraï n'ont pas mesuré les conséquences, ni à court terme, ni à long terme, de ce que signifiait changer les pierres en pain. Parce que vous savez que Ismaël et Isaac, c'est pas l'entente fraternelle, hein. Encore aujourd'hui. Donc, ça signifie que le miracle humain, le pseudo-miracle, le miracle humain, celui que tu essayes de produire, fera toujours obstacle au miracle divin. Le miracle humain fera toujours la guerre au miracle divin. Ben, je pense qu'il vaut mieux rester dans la patience et la soumission de la foi. Parce que quand Dieu donne, lui, il donne en son temps. Ce qu'il donne est parfait et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et lui, il ne me fait pas payer le prix que le diable a fait payer plus tard. Deuxième tentation, c'est un peu comme si le diable disait à Jésus... Ah, tu veux jouer à Il est écrit. Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Et on passe dans une deuxième phase de tentation qui est en réalité beaucoup plus subtile. Puisque le diable, cette fois-ci, a une forme de connaissance. C'est un texte sorti de son contexte, évidemment. C'est tordu, c'est complètement tordu. Mais il a une forme de connaissance. Étant malin et tordu lui-même, il, comme s'il disait à Jésus, « Ah, tu veux jouer à ça ? Ben moi, je vais te montrer que moi aussi, je peux t'en citer des textes bibliques. » Et là, il a l'audace, le toupet, la connaissance de sortir une parole précise du psaume 91. Et il veut pousser Jésus. Il le provoque encore. Il veut pousser Jésus à tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est-à-dire forcer la main de Dieu, forcer Dieu à faire quelque chose qui ne serait pas dans son plan, mais il serait quand même obligé de le faire de façon à ce qu'il ne m'arrive rien. C'est-à-dire que Dieu serait du coup tiraillé entre ses principes. Si Jésus se jette du haut du temple jusqu'en bas, dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas prévu d'envoyer des anges pour le sauver. Si Jésus craque et qu'il fait ça, c'est tout un plan qui s'effondre. C'est tout le plan de Dieu qui s'effondre. Ou alors, Dieu est obligé de faire quelque chose qui n'est pas dans son plan. Tenter Dieu, c'est vouloir d'une façon ou d'une autre lui forcer la main. C'est ce que le diable a voulu faire. Amener Jésus à forcer la main du Père. La tentation est très subtile. Le ou les versets cités du psaume 91 sont totalement sortis de leur contexte, évidemment. Ça m'apprend aussi des choses, ça m'apprend aussi non seulement à me méfier des pensées de l'ennemi, ça m'apprend à me méfier de ce qu'on peut me dire, de ce qu'on peut me véhiculer comme pensée biblique, je mets des énormes guillemets, avec des tas de textes qui seraient sortis de leur contexte. Il y a tellement de pasteurs, il y a tellement de chrétiens qui ne voient dans la Bible que ce qui les arrange. Et qui interprètent les choses comme ça les arrange eux. On trouve des interprétations à des textes pour justifier nos prises de position, nos actions, certaines prédications, certaines thématiques, etc., etc. Je vais vous dire quelque chose de très simple, mais si vous pouvez retenir ça, vous gagnerez beaucoup. On ne sort jamais un texte de son contexte. Jamais. Sortir un texte de son contexte, c'est un prétexte pour une dérive, une déviation. La Bible, il faut le comprendre, frères et sœurs, la Bible, c'est une unité infaillible, éternelle, inspirée, cohérente, indivisible, et la Bible, elle est autosuffisante. Elle s'explique toujours par elle-même. Ce qui signifie que ce que je comprends, plus exactement, ce que je crois comprendre, soyons honnêtes, même Paul a dit « nous connaissons en partie ». Donc tous, moi le premier autant que nous sommes, avant de vous faire un truc, croyez-moi, j'ai tout vérifié 2, 3, 4 fois, je mets toujours des exemples parce que je veux toujours que tout se recoupe et que tout colle. Avant de penser que j'ai compris quelque chose, ce que je crois comprendre doit absolument se vérifier dans d'autres textes, dans d'autres passages. Et surtout, ce que je crois comprendre ne doit pas entrer en contradiction avec d'autres textes. Je ne dois pas briser l'unité de la parole parce qu'elle est autosuffisante et elle me permet justement de bien vérifier que ce que je crois avoir compris est correct, est exact. Et c'est là que Pierre dit, il en est beaucoup qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Exemple. C'est comme ça que le diable a eu Ève. Est-ce qu'on peut lire rapidement ? Dans la Genèse, à l'origine, le diable a eu Ève comme ça. Il a profité d'une lacune chez elle, il a profité d'un manque de connaissances. Il a profité d'un manque d'affermissement. Ève était beaucoup trop approximative dans sa connaissance. Je vous le prouve tout de suite. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Et ensuite, la femme, par voie de conséquence, évidemment. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Écoutez bien, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je relis, c'est pas compliqué, mais je relis. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Attention, c'est pas compliqué, niveau CE2. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Qu'est-ce que le Seigneur vient de dire à Ève ? De quel arbre ne doit-elle pas manger ? De l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Si elle en mange, il se passera quoi ? Ok, c'est pas compliqué. Il n'y a pas grand-chose à retenir. On avance. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Donc là, il vient subtilement, il va voir, comme avec Jésus, hein, il va voir ce qu'elle sait vraiment. Il va essayer de voir ce qu'elle sait. À quoi elle en est ? Il va lui balancer un truc. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Regardez bien ce qu'elle répond. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu sais, il y a un arbre au milieu là. Ouais, je crois que oui, c'est... Ah, tu sais, comment c'est, tu sais, le texte où Ruth, non, où c'est Naomi. Bon, c'est pas grave. Non, c'était peut-être Abigail. Tu sais le texte où là, elle dit que, ouais, dans cette circonstance, parce qu'en fait, elle dit, ouais, mais je... Ouais. C'est quoi ta question ? Le nombre de fois, frères et sœurs, où on se contente de souvenirs, d'approximations, On est incapable, pardon, c'est pas méchant, hein, on est incapable en tant que chrétien, enfant de Dieu, on est incapable de sortir des paroles nettes, claires, précises, équilibrées dans le contexte de la révélation éternelle. Regardez Ève, comment le diable il l'a eu ? Il l'embrouille et elle répond « Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin ». Mais on a vu tout à l'heure que déjà il n'est pas question de l'arbre qui est au milieu du jardin, parce que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Donc il n'est pas question de celui-là, il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle est déjà complètement perdue. Il n'y a que deux arbres, elle est déjà perdue. Dieu dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, jusqu'à ça, de peur que vous ne mouriez. » Si tu touches à cet arbre, enfin finalement je ne sais plus vraiment lequel c'est, pourrait peut-être t'arriver des bricoles. Et Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et comment est-ce que le diable a eu Ève ? Ben, il l'a embrouillée, elle a répondu approximativement, et comme il y avait une brèche, ben, le diable il a stratège, il n'est pas bête. Il s'est engagé, il s'est engouffré dans cette brèche. Et c'est là qu'il lui dit ensuite, alors le serpent dit à la femme, « Mais non, vous ne mourrez pas, mais en fait, tu n'as pas bien compris. » Il a dit, il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là, d'un truc un peu tordu, il l'emmène dans un énorme mensonge. Mais comment ils se sont, Adam et Ève, laissés embarquer dans un énorme mensonge ? Ben ça a commencé avec une approximation. Il me semble que, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre avec une connaissance précise, exacte. Je ne vous demande pas, moi non plus, hein, vous savez, je ne connais pas la Bible par cœur, je ne connais pas non plus toutes les références, je me mélange toujours dans les chiffres, je les mélange toujours les références, mais par contre, les principes bibliques, les principes spirituels, ils ne sont pas intellectuels, ils sont gravés là, dans mon cœur, et je sais si je peux aller là ou si je ne peux pas aller là, parce que dans mon cœur, c'est écrit. Même si je n'ai pas la référence exacte, parce que évidemment, y a plusieurs milliers de versets, vous vous doutez bien qu'on ne connaît pas tout par cœur. Mais on parle de connaissance de cœur, de connaissances précises et exactes, de façon à ce que lorsqu'il y a une parole de l'ennemi mensongère et tordue, je puisse, par la parole qui est autant un bouclier de foi qu'une épée pour le contrer, je puisse de façon incisive et pénétrante le chasser, lui résister. Faute de connaissance, le peuple périt. Troisième tentation. Le diable transporte encore et lui dit « Je te donnerai tous les royaumes que tu vois si tu te prosternes et si tu m'adores. » En réalité, le diable, ici, dans la troisième tentation, est en train de proposer à Jésus un autre chemin que celui de la croix. La croix va être une source de bénédiction pour lui, puisqu'il va être élevé, le chemin de la croix, parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort infâme de la croix, il a été souverainement élevé. La croix, c'est le chemin de la gloire, du trône, etc., etc. Et il va proposer à Jésus un autre chemin, un chemin à moindre coût, un chemin à moindre frais. Il va lui proposer aussi, à sa façon, il va lui proposer une bénédiction. Vous savez que le diable, il a aussi des bénédictions pour nous, hein. On met des grosses guillemets sur bénédiction, parce que la facture derrière, elle est salée. Mais le diable, il est toujours disposé, lui aussi, il a un plan pour nous. Et le diable, lui aussi, il a un plan, il a quelque chose à nous proposer, il a une bénédiction, j'ai mis des grosses guillemets sur le PowerPoint, en vérité, ce sont des compromis. Et là, je vous parle rapidement pour conclure, et après, c'est fini. Je vous parle rapidement de l'exemple de David. 1 Samuel 27. David, on le sait, c'est ce que je disais en partie dimanche en citant son exemple, David a été oint pour être roi. Il est roi, il a été oint par Samuel. Seulement son désert à lui, c'est qu'il n'a pas de trône. Et ne pas avoir de trône pour un roi, il n'a rien pour régner, c'est un comble. Donc il est dans une forme de désert. Et à cause de la persécution de Saül sur sa vie, il est dans un désert, un double désert, autant un désert spirituel, il est en manque de trône, il y a une promesse de Dieu qui n'a pas encore trouvé son accomplissement, donc là entre les deux, il y a un vide, et dans ce désert, autant physique que spirituel, il est poursuivi, il est persécuté par Saül qui en veut à sa vie. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien David, on ne lui jette pas la pierre, David il va craquer sous la pression. Et il va avoir une période de sa vie où il va faire un compromis, il va se réfugier au pays des Philistins. Et c'est là qu'il est écrit au verset 1er, 1 Samuel 27, verset 1er, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. » Je ne sais pas où il a été chercher ça. Pensée mensongère, il a laissé une pensée s'intégrer dans son cœur. Alors que si vous lisez le chapitre 26, juste avant, Dieu l'a délivré une fois de plus de la main de Saül. Il vient d'être délivré de la main de Saül. Dieu l'arrache encore une fois. Dieu lui montre encore sa grâce. Dieu pourvoit encore. Dieu lui montre encore sa protection. Je vous ai dit que les déserts pouvaient être des lieux de protection hier soir. Et Dieu lui montre encore sa protection. Et David, à un moment... C'est comme s'il disait, bon, je m'en suis sorti ce coup-là, mais la prochaine, ça ne marchera peut-être plus. Hein. Il faut trouver une solution, puisque de toute façon, Dieu ne fait rien. Je ne suis toujours pas rentré à Jérusalem, je n'ai pas de trône. Donc, David dit en lui-même, à continuer à jouer comme ça avec Saül, un de ces quatre, je vais y rester. C'est ça que ça veut dire. Et c'est là qu'il va se trouver, le diable lui souffle une mauvaise solution. Il n'y a rien, c'est un mensonge. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Le Philistin, c'est un type de l'ennemi. C'est comme la Malécite, c'est comme l'Égypte, c'est comme Pharaon, etc. Nebuchadnezzar, Babylone, tout ce que vous voulez, ce sont des types de l'ennemi. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après, on va me dire, ouais, le pasteur me dit, t'as fait un compromis. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, ça fait des années, il ne se passe rien. Il faut bien qu'on fasse quelque chose, c'est légitime quand même. Oui, c'est légitime. Je comprends qu'on puisse parfois craquer sous la pression. Mais là, c'est la peur qui a emmené David à se réfugier chez le roi Achish. Verset 4. Saül informait que David s'était enfui à Gath. C'est ça de le chercher. Ah, d'une certaine façon, il était tranquille. D'une certaine façon, il avait réglé un problème. Mais, ensuite, verset 12. Achish se fiait à David, il savait à quel homme il avait affaire, et il disait, il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Et pour Achish, pour le type de l'ennemi qu'il est, il voit une occasion extraordinaire qu'un enfant de Dieu, alors qu'il est enfant de Dieu, il est toujours enfant de Dieu, soit dans un territoire ennemi, et qu'en plus, alors qu'il devrait servir Dieu, il serve les intérêts, les desseins, les objectifs, il fasse le jeu de l'ennemi. Il est question de servir. Et quand Jésus répond au diable dans le désert, il lui dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » À ce moment-là, David, il cesse d'écouter Dieu, il cesse de marcher par la foi, il se laisse envahir par les mensonges de l'ennemi. Et bien que d'un côté il soit tranquille, qu'il pense avoir réglé le problème, Achish, lui, il se frotte les mains, il sait très bien que ça tournera à son avantage, il sait que David est en train de se compromettre, de se corrompre, et Achish, le comble du comble, Achish va bénir David. L'ennemi va bénir l'enfant de Dieu. Parce que le diable, lui, pour vous prendre 10 fois de la main gauche, il est prêt à vous donner une fois de la main droite. Hein. Et il va lui donner Tsiklag. Il va le bénir. Tu vas l'avoir, ta bénédiction. Tu ne veux pas payer le prix de la foi, tu ne veux pas attendre, tu ne veux pas patienter, mais t'inquiète pas, le diable, il a aussi une bénédiction avec des grosses guillemets pour toi. Et Achish lui donne Tsiklag. Oui, mais jusqu'au jour où il va falloir payer la facture, et vous, je vous laisse lire chez vous, ce serait trop long, vous lirez la suite du récit jusqu'à 1 Samuel 30 inclus, et vous allez voir que ce que l'ennemi donne d'une main, il le reprend 10 fois de l'autre, il le fera payer extrêmement cher. Eh oui, puisque à ce moment, 1 Samuel 30, David rentre dans sa ville, dans sa pseudo-bénédiction, mais l'ennemi, il est passé par un autre intermédiaire. il lui a donné d'une main, mais il va lui prendre 10 fois de l'autre, et il est passé par le biais des Amalécites, qui est aussi un type de l'ennemi. Les Amalécites, pendant que David était absent, font une incursion, ils prennent, ils pillent, ils emmènent, ils dérobent, et quand David arrive, il est dans un champ de ruines, et toute la bénédiction qu'il pensait avoir n'était pas une bénédiction, c'était un leurre pour mieux l'atteindre. Alors oui, vous connaissez l'histoire, par la grâce de Dieu, David s'en est sorti, David s'est repenti, il s'est repenti. Donc Dieu lui a permis de tout récupérer. Il a été à la poursuite des Amalécites, Samuel 30, il a tout récupéré après s'être repenti et après être à nouveau entré en consultation, en écoute avec Dieu. Il a consulté Dieu. Cet exemple de fausse bénédiction, de compromis, m'enseigne et me dit: il y a tellement de douleurs et de souffrances que tu pourrais t'éviter si tu voulais juste accepter le temps de Dieu pour la bénédiction. Vous faites chacun l'application dans vos circonstances pratiques. Combien de douleurs et de souffrances aurions-nous pu nous épargner, nous éviter? Et dans ce genre de contexte de fiasco, je dis, il vaut mieux le désert que l'Égypte. Il vaut mieux le désert que les Philistins. Merci Seigneur, après ce temps d'épreuve, après ce temps de test, Jésus sort victorieux du désert. Avant ça, il a été servi, parce que le temps de Dieu, la provision divine a été accordée. Jésus sort victorieux du désert. Le test a été réussi avec succès. On sait qu'il est fiable. Il a fait ses preuves. On peut le suivre. Et merveilleux passage du verset 11, Matthieu 4, 11. Alors, le diable le laissa. L'épreuve, la tentation, je vous l'ai dit en tout début dimanche, c'est juste un chemin. C'est un détour par le chemin du désert. Alors, le diable le laissa. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ça m'apprend aussi quelque chose, ici en conclusion. Tant qu'on n'a pas vraiment plié, je parle des genoux de notre cœur, je ne parle pas d'une posture physique. Tant qu'on n'a pas vraiment fléchi les genoux de notre cœur, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tant qu'on n'a pas fléchi les genoux de notre cœur devant lui, il y a des forces qu'on n'aura pas. Je ne suis pas fort par moi-même, je ne suis pas capable par moi-même, je ne peux pas oublier que je suis qu'une créature. La créature que je suis, c'est dans son ADN. Ça se passe dans le désert. Est-ce que je peux comprendre que mes genoux, je vais les fléchir? Personne ne reste debout, c'est un mensonge, c'est un leurre. Dans ma situation, d'une façon ou d'une autre, mes genoux, je vais les fléchir. C'est ma condition de créature. Je suis fait pour adorer, je suis fait pour me prosterner, je suis fait pour être conduit, je suis une brebis, je suis fait pour être dirigé. C'est un des aspects fondamentaux de la brebis. Elle est faite pour suivre, elle ne peut pas se diriger elle-même. Non, je n'ai pas la force par moi-même. Et pourquoi Dieu veut absolument me faire capituler devant lui dans mes déserts? Pourquoi il veut m'humilier? Pourquoi il veut m'éprouver? Pourquoi il veut m'amener en bas? Oui, pourquoi, comme Josué et tant d'autres, Moïse, il veut que je morde la poussière? Parce que Dieu sait, il vaut mieux que je fléchisse devant lui que devant l'autre. Et quand je fléchis devant Dieu, c'est aussi une mesure de protection et de bénédiction, parce que celui qui fléchit les genoux devant Dieu ne fléchira plus devant l'ennemi. Si je fléchis les genoux de mon cœur devant Dieu, si je capitule devant Dieu, je ne capitulerai plus devant le péché, je ne capitulerai plus devant les compromis, je ne capitulerai plus devant la dépression, je ne capitulerai plus devant la pression de ce monde, devant les menaces, devant les chantages, devant les circonstances, devant les ennemis. Celui qui plie le genou devant Dieu ne fléchira plus jamais devant autre chose, quoi que ce soit. Ça, c'est l'objectif aussi du désert. Merci Seigneur. Jésus a réécrit l'histoire du désert. Il a dévoilé l'ennemi et il nous a montré le chemin. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Amen.